Bonjour à tout le monde. Bonjour. Un excellent jour de fête des tabernacles. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous serez et ce que vous ferez dans le monde de demain et par après? La fête des tabernacles décrit ce temps où vous allez commencer à faire l'expérience d'être littéralement et totalement un fils et une fille de Dieu transformé en être spirituel, n'étant plus physique du tout. Vous allez commencer à faire cette expérience-là à partir du retour de Christ. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil sur cette vie heureuse et abondante à tout jamais pour ceux que Dieu appelle maintenant et qui auront la responsabilité de servir Dieu et le Christ éternellement, de même que les autres êtres humains durant le millénium. Alors, le titre de mon message aujourd'hui, « Votre vie durant le millénium et après ». Votre vie durant le millénium et après. Si vous êtes un chrétien vraiment converti, ça veut dire une chose. Ça veut dire que vous avez choisi de suivre la voie difficile. Je ne vous apprends rien. C'est une voie difficile, mais unique, sans pareil. Et vous êtes dans la direction d'un but incroyablement grand. Vous vous dissociez de plus en plus des voies méchantes du monde. Pourquoi? Pour marcher dans une nouvelle voie, dans la voie de Dieu. Et comme j'ai mentionné, ce n'est pas un choix facile. Ça prend du courage. Ça prend de la foi, ça prend de la ténacité. Et on peut y arriver seulement par la force du Tout-Puissant Jésus-Christ en nous, pas par notre force. Ça, c'est encourageant. Donc, je reviens à ça, vous avez tourné le dos à la société autour de vous qui est contraire aux lois de Dieu, contraire aux voies de Dieu et contraire aux fêtes de Dieu. Résultat? Il y a des gens autour de vous, même parmi vos êtres chers, qui ne vous comprennent pas. Ils ne peuvent pas non plus. Ils vous comprendront quand Dieu va les appeler. Ils ne vous comprennent pas pour l'instant. Certains s'éloignent de vous. D'autres vous mettent de côté, en plus de vous trouver bizarre. Et on peut les comprendre. Ça a été prédit par le Christ. Il n'y a rien de nouveau. Dans Jean 15, verset 19. Jean 15, verset 19, le Christ a bien mentionné concernant les chrétiens, c'est-à-dire ceux qui marchent dans ses voies. Jean 15, verset 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Non seulement vous rejette, mais n'aime pas ce que vous faites et votre façon de vivre. Ça devient très clair à un moment donné. Le Christ avait annoncé que ces choses-là viendraient, et plus la fin va approcher, plus ce phénomène-là va se développer. Alors, pourquoi tenir ferme? Pourquoi persévérer? Parce que ce qui nous attend très bientôt en vaut vraiment la peine. Mais pas seulement pour nous, parce que nous ne sommes pas appelés pour nous-mêmes. Nous sommes appelés d'abord maintenant pour faire une œuvre, pour annoncer l'Évangile aux nations et permettre le travail de Dieu d'appeler d'autres individus dans le petit troupeau d'ici la fin. Mais nous tenons bon, malgré les adversités, pour les gens autour de nous, même pour ceux de vos familles, qui ne vous comprennent pas encore et qui peuvent peut-être vous rejeter. C'est pour eux que vous êtes ici et c'est pour eux que nous avons le désir de tenir. Nous les aimons à ce point-là. Et ce faisant, nous faisons comme le Christ qui nous a aimés au point de venir souffrir dans la chair humaine pour que nous ayons accès à la vie éternelle. C'est un peu le même phénomène. Alors nous sommes là aussi pour eux. Et un jour, ce jour va venir, un jour, ils vous seront reconnaissants d'avoir tenu le coup, malgré les circonstances extrêmement difficiles. La fête des tabernacles représente le temps tout proche où Dieu, pour toute la première fois, vous allez goûter, expérimenter, vivre personnellement la même sorte de vie que Dieu lui-même vit actuellement. Pourquoi? Parce que vous allez être à son niveau d'existence, ce qui n'est pas le cas maintenant. Une vie glorieuse, une vie heureuse, une vie active, très active, et en plus, une vie sans fin, absolument sans fin. C'est pour ça que le Christ, dans Jean 10, au verset 10, a dit ceci, « Moi, je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Dans certaines versions, ça dit « plus abondamment ». Donc, plus abondamment que la vie physique que nous avons maintenant. Ça ouvre la porte sur la vie éternelle qui approche, qui nous sera donnée. Maintenant, je vais plus loin, ça revient sur le thème de mon sermon. À quoi va ressembler votre vie éternelle? Ça va ressembler à quoi? Je veux qu'on jette un coup d'œil là-dessus aujourd'hui pour en avoir l'encouragement que Dieu veut nous donner. Par la nouvelle naissance que nous allons vivre si nous persévérons jusqu'au retour de Christ et que nous soyons changés en être spirituels, par la nouvelle naissance, Dieu vous aura amené à son propre niveau d'existence. Pour que vous connaissiez une joie parfaite et sans fin, on entre dans ce nouveau monde-là, là. Une joie parfaite, sans fin, éternelle, à son niveau d'existence. Première chose, votre nouveau corps sera spirituel et parfait. Tout à fait différent du véhicule physique que nous avons actuellement. Il est magnifique, notre corps physique. C'est un beau mécanisme, merveilleusement conçu. Le corps physique que Dieu nous a donné pour l'instant, c'est un système complexe qui vous assure le don de la vie physique, mais temporaire. C'est un don, la vie physique, mais il est temporaire. Vous le savez, votre corps et le mien sont sujets à la maladie, sujets aux blessures, sujets au vieillissement. On n'a pas le choix, c'est bâti comme ça. Et notre corps finit inévitablement par s'arrêter de fonctionner, par mourir, parce que nous avons été créés, dans la sagesse de Dieu, en tant qu'être mortel. En tant qu'être mortel. À la résurrection, par contre, vous recevrez la vie éternelle dans un corps nouveau. Vous aurez un corps, mais un corps spirituel. On change de niveau d'existence. Un corps entièrement composé d'esprit. Cette vie nouvelle va être de très loin plus satisfaisante que la vie physique que nous connaissons actuellement. 1 Corinthiens chapitre 15. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 15. Être transformé d'être physique en être spirituel, c'est ce qui nous attend. Et imaginez ce que ça va être. Toutes les maladies, toutes les blessures, toutes les limitations, toutes les infirmités vont disparaître à jamais. Tous les handicaps, tous les effets de vieillissement, ça n'existera plus pour nous à ce moment-là, à cause de notre corps spirituel. Votre corps sera devenu comme le corps de Dieu lui-même. C'est fort, là. Votre corps sera devenu comme le corps de Dieu lui-même. C'est pour ça qu'on sera ses enfants à part entière. 1 Corinthiens 15, versets 48 et 49. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Ça, c'est vous et moi aujourd'hui. Nous sommes de la terre, tirés de la poussière, nous sommes terrestres. C'est ce que Paul est en train d'expliquer. Il est en train de décrire le premier niveau d'existence qui nous est donné actuellement. Et un peu plus loin, il dit ceci. Et tel est le céleste, tels sont aussi les célestes. Là, il donne un petit aperçu du deuxième niveau d'existence, celui qui nous attend, notre corps spirituel éternel. Et c'est pour ça que Paul précise après, dans le même passage, « Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons l'image du terrestre, nous sommes faits de poussière, et dit « De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste, complètement différente de l'image que nous avons actuellement, de ce que nous sommes. » Et là, ça va accomplir exactement ce que Dieu avait en tête quand il a déclaré dans Genèse 1, 26, « Faisons l'homme à notre image. » Quand on sera transformé en être spirituel, nous aurons atteint le niveau d'existence de Dieu et nous serons exactement à son image. La même forme, l'exacte même nature, le même caractère de Dieu. C'est pour ça que nous formerons une famille avec un esprit, l'amour de Dieu parfait dans toute la famille. Apocalypse, chapitre 1. Quand vous serez transformé en être spirituel, votre nouveau corps sera exactement comme le corps glorieux du Christ ressuscité. Ça, c'est tellement fascinant quand on réalise ça. Notre corps sera exactement comme le corps glorieux du Christ ressuscité. C'est ce que Jean a vu dans la vision que Dieu lui a donnée de percevoir dans Apocalypse 1, versets 12 à 16. Voyez ce que l'apôtre Jean décrit quand il a eu la vision du Christ glorifié. « Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis sept chandeliers d'or. Et au milieu des sept chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. » Et nous, on connaît ça, la neige au Québec. « Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Fantastique! Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il avait été embrasé dans une fournaise, comme du métal en fusion. » Si vous avez déjà vu ça, c'est impressionnant. Moi, je me rappelle, quand j'étais gamin, on allait parfois chez le forgeron pour faire ferrer nos chevaux, et le forgeron rendait le métal transparent avec sa forge, avec son soufflet, et on pouvait quasiment voir à travers. C'est comme les ronds de poêle aussi, quand ils sont chauffés au maximum. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à deux tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Une faible description de la majesté de Christ dans sa gloire. Cheveux blancs, comme de la laine, comme de la neige. Ses yeux comme une flamme de feu. Ses pieds comme du métal en fusion. Et son visage comme le soleil. Et laissez-moi vous dire une chose. Le corps du Christ, le corps qu'il a maintenant, ne vieillit jamais. Ne se détériore pas et ne se fatigue jamais. C'est marqué à différents endroits dans la Bible que Dieu ne se fatigue jamais. Et il est le même éternellement dans son corps spirituel. Il est le même éternellement dans son caractère parfait. Ça forme un tout. Maintenant, allons plus loin. C'est lui, le Christ, qui est le créateur et le maître de toutes les lois visibles et invisibles de la physique, de notre univers. Et il peut, à volonté, dans sa toute-puissance, lui qui a créé ces lois, il peut entrer à volonté dans l'univers physique quand il le veut. Il est en dehors de l'univers physique. Il a créé le temps, il a créé l'espace, il a créé la matière, et il est en dehors de tout ça, mais quand il le veut, il peut entrer dans la dimension physique des choses. En plus, il peut voyager instantanément à travers l'univers, d'un bout à l'autre du cosmos. Et il peut aussi passer à travers des objets solides et prendre un corps de chair, s'il le veut. D'ailleurs, allez à Luc chapitre 24. Ça, c'est vraiment enthousiasmant de voir ce passage-là, parce que c'est ce que le Christ a fait. Peu de temps après sa résurrection. Luc 24, on va commencer à lire au verset 36. Juste avant ça, quand vous regardez le contexte, Jésus-Christ s'était approché de deux de ses disciples qui étaient en marche vers Emmaüs et avait parlé avec eux. Et pas longtemps après, voyez ce qui est dit ici, Luc 24, verset 36 à 43. « Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples en question, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisi de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit. Ils ont vécu toutes sortes de choses, les disciples. Ils ont passé par des expériences inhabituelles puis assez frappantes. Mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds. C'est bien moi. Touchez-moi. » Alors voyez-vous, pour qu'il puisse le toucher, c'est que là, il avait repris son corps physique. Il montrait ses plaies, puis il dit, « Touchez-moi. » Et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore, et qu'ils étaient dans l'étonnement, regardez bien, il leur dit, « Avez-vous quelque chose à manger? Avez-vous quelque chose à manger ici, vous autres? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel, et il en mangea devant eux. Il avait son corps physique et il a pu goûter le poisson, le miel et les choses qu'ils lui ont données. Il avait repris un corps physique. « Vous aurez les mêmes pouvoirs. » Parce que vous serez les petits frères et les petites sœurs du Christ, rendus à son niveau d'existence. Si on pense que les films de science-fiction qu'on a pu voir dans le passé étaient impressionnants, c'est rien à côté de ce qui nous attend, à côté du plan de Dieu qui va se réaliser pour ses fidèles serviteurs. Vous savez, actuellement, vous connaissez le monde qui vous entoure et vous pouvez goûter les choses. Comment? C'est par vos cinq sens que vous pouvez avoir le contact avec ce qui vous entoure, être informé, voir, entendre et tout ça, et vous réjouir. Ça vous permet d'être en contact avec ce qu'il y a autour. La vue, l'odorat, le goût, le toucher, lui. Ça fait partie de la machine physique. Et ce sont ces éléments-là qui vous permettent d'être en contact avec ce qu'il y a autour. Il y en a qui ont des différences par rapport à d'autres. Je connais un monsieur, moi, dans l'église de Québec, qui peut goûter les choses beaucoup plus que moi. Parce qu'il a le don du goût très développé. À tel point qu'il peut aller dans un restaurant, on l'a vécu déjà avec lui, manger le mets qui va lui être présenté et savoir exactement ce qu'il y a dans les mets. Les assaisonnements, puis un peu le dosage des assaisonnements, c'est phénoménal. Ça me frappe de voir ça. Je ne dirais pas que c'est M. Ongaro parce que je ne veux pas le mettre mal à l'aise. Alors, M. Ongaro a cette capacité-là, je trouve ça extraordinaire. Il a goûté des mets succulents et il les a reproduits exactement chez lui après, simplement par le sens du goût. Alors, voyez-vous, nos sens nous rendent service beaucoup, mais certains... Chez certains, c'est plus développé que chez d'autres. Mais c'est simplement sur le niveau physique, là. Sur le niveau spirituel, ça va être beaucoup plus que ça. Ça sera différent. Et c'est la même chose pour Dieu. mais à un autre niveau. Dieu perçoit les choses. Dieu est en contact avec tout ce qui existe, mais à son niveau d'existence. Rappelez-vous que notre monde physique est un faible reflet de ce qui existe dans le monde spirituel. Un faible reflet de ce qui existe dans le monde spirituel. Vous savez une chose? On a parlé dans des sermons durant la semaine que Dieu est joyeux, est un être serein, joyeux, enthousiaste, développant plein de projets. Laissez-moi vous dire que Dieu est entouré des plus belles choses de l'univers que nous, on ne peut pas imaginer. Mais actuellement, Dieu est entouré des plus belles choses de l'univers et en tout temps. Et il y prend plaisir. Notre Père est un Dieu de joie qui aime ce qu'il fait et qui goûte ce qu'il fait, à tout ce qu'il fait. Pour nous, pour l'instant, ce n'est pas possible de goûter à ce niveau de plaisir et à ce niveau de joie et à cette intensité de joie. On peut juste entrevoir de loin ce que ça pourra être et ça nous donne encore davantage le goût d'arriver au bout de la course. Alors, non seulement nous aurons un nouveau corps, comme on a vu, corps spirituel, parfait, mais nous aurons aussi en nous la mentalité parfaite de Dieu. Et ça, ça va être agréable, tellement agréable. Son caractère. Actuellement, en tant qu'être humain, notre cerveau est réellement un chef-d'œuvre de la création de Dieu. Le cerveau humain est un chef-d'œuvre de la création de Dieu. Dieu a placé dans le cerveau de tous les êtres humains une composante non physique que la Bible appelle l'esprit dans l'homme. Ce n'est pas physique, mais Dieu a mis ça dans l'esprit de chaque être humain, dans le cerveau de chaque être humain. Et ça donne aux êtres humains la capacité de penser, raisonner, comprendre des choses, apprendre des choses, faire des projets, les réaliser. Ce qu'aucun animal ne peut faire, c'est complètement différent. C'est pour ça qu'il est écrit dans Job 32, verset 8, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Et les êtres humains, dans ce sens-là, sont uniques parce qu'ils sont appelés à faire partie de la famille de Dieu. Ils sont dans le stade préparatoire actuellement. Par contre, je reviens là-dessus, l'esprit que Dieu a mis dans notre cerveau, c'est un esprit qui est quand même limité. C'est un esprit imparfait d'une certaine façon. Et il est incomplet. Il faut que Dieu y ajoute sa puissance. Ça fait partie de son plan. Il faut qu'il y ajoute son Saint-Esprit pour que nous puissions, premièrement, comprendre et accepter les voies de Dieu. Si Dieu ne nous donne pas son Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre les voies de Dieu. Et c'est pour ça qu'on n'essaie pas de convaincre les gens autour ou les gens de notre famille. Si Dieu les appelle, les gens vont faire le chemin et vont chercher. On a besoin de son Saint-Esprit pour comprendre les choses spirituelles et vaincre nos faiblesses charnelles, résister à Satan, résister au monde de Satan. Lorsque nous allons naître de nouveau, nous serons transformés. Nous allons être rendus parfaits, totalement spirituels, comme j'ai mentionné. Et Dieu va compléter définitivement en nous le caractère divin que nous nous efforçons maintenant de développer. Et c'est pour ça que Paul a écrit dans Philippiens 1, verset 6, et ça, c'est tellement encourageant. Il a dit ceci, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, et il l'a commencé dans ses appelés maintenant, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Voyez-vous, si on est en marche pour développer encore son caractère au moment où le Christ va revenir, il va rendre ce caractère-là parfait, il va le finaliser dans la direction où nous serons. C'est pour ça qu'il faut persévérer jusque-là. Et en tout temps, quand il nous aura rendu parfait le jour où le Christ va revenir, nous allons avoir le caractère parfait de Dieu. Vous allez voir ce que ça veut dire aussi. C'est que nous serons constants. Nous serons totalement prévisibles. Caractère parfait. Et nous serons comme le Christ, dans ce sens-là, le même, pour ce qui nous concerne nous, le même au moment de notre transformation totale en être spirituel, le même ce jour-là, le même le lendemain, le surlendemain, 1000 ans après, 10 000 ans après, 1 million d'années plus tard. Le Christ est le même éternellement, mais nous serons le même à partir du jour où nous allons rentrer dans l'éternité. Et ce qui est formidable, ce qui m'encourage, c'est que nous ne pécherons jamais. Nous ne pécherons plus. 1 Jean chapitre 3, verset 9. 1 Jean chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Et ici, il y a deux niveaux d'explication, ou deux niveaux de compréhension dans cette phrase-ci. C'est que pour le moment, d'abord le mot « né » de Dieu, c'est « genao », comme vous savez sûrement, qui veut dire aussi tout le processus à partir de l'engendrement jusqu'à la naissance. Nous, maintenant, nous sommes engendrés par le Saint-Esprit. Ce que nous faisons, c'est que nous travaillons à ne pas pécher. Donc, celui qui est engendré de Dieu ne veut pas pratiquer le péché. C'est ce que ça veut dire. Mais si on le prend dans sa dimension future, ceux qui seront nés de Dieu ne pourront pas pratiquer le péché. Ils seront capables de ne plus pécher. C'est l'autre dimension des choses. C'est fascinant de voir ça. Mais ce n'est pas tout. Vous allez pouvoir prendre plaisir à apprendre. Plein de choses. Moi, je sais que je vais avoir plus de temps à ce moment-là que j'en ai maintenant. Et moi, ce qui me fascine, c'est la composition de la terre, la composition des roches. Et des fois, je dis à mon épouse, les roches, ça raconte l'histoire du monde. Et c'est vrai. Quand on regarde la composition des roches, chez nous, à Québec, dans le fleuve, on trouve des roches qui sont un amalgame de différentes sortes de cailloux. Donc, ça raconte ce qui s'est passé, des événements majeurs pour que ça vienne ensemble comme ça, que ce soit cimenté. Alors, j'aurai l'occasion de m'amuser à étudier la géologie, l'étude de la terre, l'étude des pierres. Alors, vous allez pouvoir prendre plaisir à toutes sortes de choses comme ça, à découvrir les secrets de l'univers, qui sont pour nous des secrets actuellement, à obtenir des réponses à toutes les questions restées en suspens, à découvrir pourquoi telle ou telle chose sont arrivées dans votre vie. On pourra demander au Christ, comment ça se fait que c'est arrivé telle chose dans ma vie? Et il va nous prendre plaisir sûrement à nous expliquer pour qu'on comprenne davantage notre histoire. Et vous allez avoir, ça c'est intéressant aussi, vous allez pouvoir économiser les petits bouts de papier comme les miens. Là. J'ai plein de petits bouts de papier avec des notes. Vous allez avoir une mémoire parfaite. Donc, vous allez économiser du papier. Vous allez vous rappeler les choses parfaitement. Quand on voit dans la Bible, Dieu dit qu'il compte les étoiles du ciel et qu'il leur donne à toutes des noms. Et je sais qu'il ne les oublie pas. Et quand on sait qu'il y a des groupements de galaxies, de millions de galaxies ensemble, que chaque galaxie a des centaines de milliards d'étoiles, et ainsi de suite, il connaît le nom de chacune. Alors Dieu a une mémoire parfaite, phénoménale. On fera partie de sa famille et nous aurons les mêmes attributs. Il y a plus que ça encore. Rien ne va vous échapper. Rien ne va vous échapper. Dieu peut même, s'il le désire, savoir le sort des petits oiseaux qui tombent sur le sol. On le sait dans la Bible. Hein? Il dit, il sait quand un moineau tombe. Alors, il est conscient de toute sa création. Vous serez plein de sagesse en plus de ça. Ça, j'ai hâte. Vous serez plein de sagesse pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Ce qui n'est pas toujours évident actuellement dans la chair. On est obligé d'aller à genoux puis demander de l'aide, puis d'après ça, d'être patient pour attendre les réponses et tout ça. Mais à ce moment-là, on pourra prendre les bonnes décisions au bon moment, comme le Christ dans son règne. Il est d'ailleurs décrit, Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 4. Ésaïe chapitre 11, verset 1 à 4. Il parle du Christ ici, de sa sagesse, de sa majesté. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de son Père, Esprit de sagesse et d'intelligence, Esprit de conseil et de force, Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il parle du Christ, mais le Christ a toujours respecté son Père. Hein? Il a toujours admiré son Père. Il a toujours respecté son Père. C'est cette relation-là qui est décrite ici. Il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence. Il ne prononcera point sur un oui-dire. Mais il jugera les pauvres avec équité et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Formidable. Et nous aurons les mêmes capacités de sagesse, de jugement, de pouvoir dire les bonnes choses au bon moment, selon le cœur des personnes, selon les situations. Donc, je résume. Nouveau corps spirituel, caractère divin sans faille, capacité illimitée d'apprentissage et de mémoire. C'est extraordinaire. Mais on va plus loin. Nous aurons une sérénité et une assurance totale pour exercer nos fonctions en tant que dirigeants serviteurs. Serein là-dedans et complètement assuré parce qu'on ne se trompera pas. Donc, on aura cette assurance de prendre les bonnes décisions, donner les bons conseils, comprendre les gens. Si on regarde ce qui se passe aujourd'hui dans notre société, comment doivent se sentir nos dirigeants dans le monde où nous vivons? Est-ce qu'on pourrait trouver un dirigeant de société vraiment satisfait de ses fonctions? Pas vraiment, si on regarde comment les choses se passent. Même ceux parmi eux qui ont de bonnes intentions sont très souvent frustrés de ne pas pouvoir réaliser les bonnes choses qu'ils avaient en tête. Ils sont empêchés d'une façon ou de l'autre. Et en plus de ça, ils vivent dans une constante instabilité. Pourquoi? Ils ont peur de perdre leur job. Et c'est pour ça qu'à tous les 4 ans, dès qu'ils sont élus, ils travaillent déjà pour la prochaine élection, pour s'assurer de pouvoir rentrer. Et les tyrans, eux, tuent du monde pour rester en poste, pour garder leur pouvoir. Mais tout ça sera arrêté au moment où le Christ va revenir. Ils n'ont pas la sagesse et ils n'ont pas le pouvoir pour réaliser les changements nécessaires dans la société. Mais nous aurons ces pouvoirs-là sous le Christ. Ça va être formidable. Satan sera enchaîné et nous aurons ces pouvoirs-là. Le gouvernement de Dieu sera entièrement, mais entièrement différent de tous les gouvernements humains. Complètement différent. Alors, en tant que dirigeant dans le monde de demain, vous n'aurez aucune crainte d'être renversé ou de ne pas être réélu. Parce que vous êtes des élus déjà et que si vous êtes fidèles, vous allez devenir des membres du gouvernement éternellement. Ça, c'est formidable. Et vous n'aurez pas besoin de faire prendre votre photo et de la mettre sur les poteaux pour que quelqu'un choisisse entre vous et d'autres en faisant un petit crochet sur un bulletin de vote. Encore là, vous allez économiser du papier, c'est comme pour la mémoire. Vous n'aurez pas besoin de vous présenter puis de faire prendre votre photo pour ça. Apocalypse 2, verset 26. Vous allez avoir en même temps toute l'autorité nécessaire pour vous acquitter de vos responsabilités. Vous savez, dans le monde actuel, parfois on donne une responsabilité à quelqu'un, mais on ne lui donne pas tous les pouvoirs qu'il devrait avoir, ou on sabote son travail, alors ça donne encore d'autres problèmes davantage. Mais dans le monde à venir, vous aurez toute l'autorité nécessaire pour vous acquitter de vos responsabilités. Apocalypse 2, verset 26. « À celui qui vaincra, et on doit vaincre, on doit tenir, et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. » Ça veut dire beaucoup, cela. autorité et pouvoir. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile, ainsi que moi-même. J'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Vous savez, on va traiter avec amour, bien sûr, mais avec fermeté toute rébellion qu'il pourra avoir dans le royaume de Dieu au cours du millénium. Il y a un exemple de ça très clair dans la Bible, allez à Zacharie chapitre 14. Un exemple très clair concernant la fête des tabernacles. Les premières années après le retour du Christ, où la fête des tabernacles sera observée, on voit que certaines nations, c'est une prophétie, ne voudront pas observer la fête des tabernacles. Zacharie 14, versets 17 à 19. S'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour adorer le roi, l'Éternel des armées, ça c'est fête des tabernacles au début du millénium, la pluie ne tombera pas sur elles. Si la famille d'Égypte, les Égyptiens ne montent pas, si elle ne vient pas, la pluie ne tombera pas sur elle. Elle sera frappée de la plaie dont l'Éternel frappera les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Ben vous, il n'y aura pas de jeu possible, là. Ou vous le faites, ou vous ne le faites pas. Dans le fond, on va obliger les gens à être heureux, à vivre les fêtes de Dieu, puis à vivre selon ses lois. On va les encourager, mais s'ils ont besoin d'une certaine correction, nous allons la donner. Ce sera le châtiment de l'Égypte, le châtiment de toutes les nations qui ne monteront pas pour célébrer la fête des tabernacles. Et vous savez, parce qu'aucune rébellion ne sera tolérée, mais qu'on va aider les gens à changer, le règne de la famille royale dirigeante va mettre fin à toutes les méchancetés qui affligent l'humanité actuellement. Ça va être un terme à ça. Résultat? La paix va remplacer la guerre et la prospérité va chasser l'horrible pauvreté qui augmente dans le monde. Michée chapitre 4. Michée chapitre 4. La culture de Dieu va se répandre progressivement sur toute la terre. Un tout nouveau monde approche. Michée chapitre 4, versets 2 à 4. Des nations s'y rendront en foule et diront, « Venez et montons à la montagne de l'Éternel. » À la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Les gens vont désirer comprendre les lois de Dieu. Dieu va ouvrir leur esprit. Car de Sion sortira la loi et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge d'un grand nombre de peuples, l'arbitre de nations puissantes, lointaines. De leurs glaives, ils forgeront des joyaux et de leurs lances, des serpents. Avec les instruments de guerre, on fabriquera des instruments agricoles. Une nation ne tirera plus l'épée contre une autre et l'on n'apprendra plus la guerre. Ils habiteront chacun sous sa vigne et sous son figuier. Et il n'y aura personne pour les troubler, car la bouche de l'Éternel des armées a parlé. Maintenant, je vais plus loin. Il y a une autre réalité qui vous attend durant le millénium et même au-delà. Allez à Psaume, chapitre 16, s'il vous plaît. Je ne peux pas m'empêcher de me rappeler ce qu'un membre de l'Église de Québec me dit parfois en blague, M. André Labrie, quand il parle de l'éternité. M. Labrie dit, « L'éternité, M. Brochu, c'est long. C'est long. L'éternité, c'est long. Surtout vers la fin. » C'est un peu comme quand on voyage, quand on fait un voyage, qu'on a hâte d'arriver, hein? C'est un peu la même chose, mais là, on va continuer d'arriver. Alors, l'éternité, c'est sans fin. Qu'est-ce que vous allez faire? Comment est-ce que vous allez rester heureux? Sachez que Dieu, et ça, on le voit par la Bible, se garde toujours heureux. Il fait toujours les bons choix. Et que Dieu s'entoure d'activités agréables, joyeuses et délicieuses. Psaume 16, verset 11. Et c'est ce qui vous attend et c'est ce qui m'attend. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Ça, c'est la vie abondante dont le Christ a parlé qu'il nous donnerait si nous sommes fidèles. Tu me feras connaître le sentier de la vie abondante. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. C'est juste un petit aperçu de ce qui environne Dieu, de son environnement, qu'il veut partager avec nous. Dieu désire partager ces joies-là, ces délices-là, ces plaisirs-là avec nous, ses enfants précieux, comme M. Heman nous a tellement bien décrit. Dans la parabole des talents, qu'est-ce que le Christ dit aux serviteurs fidèles? Vous pourrez aller voir dans Matthieu 25, verset 21. Il dit, « C'est bien, bon et fidèle serviteur, vous connaissez le passage, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. » Mais là, c'est le dernier bout qui m'intéresse dans mon message aujourd'hui. « Entre dans la joie de ton maître. » Voyez-vous, Dieu vit dans un environnement de joie et il veut que nous entrions dans sa joie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette explication-là ou cette compréhension du verset, il va dire à ses fidèles serviteurs, « Entre dans ma joie, entre dans mon environnement de délices, de bonheur, de plaisir. » C'est ce qui est réservé aux fidèles serviteurs. Et Dieu est en train de se bâtir une famille, dont c'est la destinée. Nous allons avoir une vie de famille heureuse, active, comme on goûte. Ici, à la fête, on sera avec notre Père, on sera avec notre grand frère, le Christ, on pourra lui parler directement, on sera avec nos frères et nos sœurs qui auront réussi. Et nous allons pouvoir, écoutez là, nous allons pouvoir adorer Dieu et le Christ directement, en personne. Il faut le voir de cet angle-là aussi. On aura accès à eux directement, comme moi j'ai accès à vous ici durant la fête et comme vous avez accès à moi. On pourra avoir accès à eux directement. On pourra leur parler, rire avec eux. On pourra faire des projets avec eux. Il y a des choses qui s'en viennent. Dieu est un Dieu rempli d'activités. Alors, il y a des choses en réserve pour nous, là. Il va nous les révéler un peu plus tard, en temps et lieu. Et je présume aussi qu'on pourra peut-être jouer ensemble. Ça, c'est une autre dimension, parce que Dieu est un Dieu de joie. Et ce n'est pas impossible. Une vie pleine. Durant le millénium, nous aurons aussi le bonheur et le plaisir d'aider directement, bien sûr, à reconstruire toutes les villes qui auront été détruites lors de la Grande Détresse et de la Troisième Guerre mondiale qui approche. Nous allons avoir le plaisir et le bonheur de revitaliser l'agriculture, de refaçonner, pour ainsi dire, la face de la terre dans un sens. Et nous allons avoir la joie d'enseigner les voies divines à des gens qui, à ce moment-là, vont désirer les apprendre. Et ça, ça sera intéressant aussi. Et nous allons leur parler. Mais laissez-moi vous dire que nous allons leur apporter les mêmes paroles qu'on voit dans la Bible, dans l'explication du plan de Dieu, comment vivre heureux, et tout ça. Ces paroles-là, ce sont les paroles du Christ. Et le Christ a bien dit que ces paroles sont esprit et vie. Ces paroles sont esprit et vie. Nous allons véhiculer les mêmes paroles du Christ pour que ça les touche et que ça les conduise vers la vie éternelle. Et le succès de ceux que vous servirez sera aussi votre succès. Ça, c'est comme un professeur d'école. Il y en a parmi nous qui ont été des professeurs d'école ici. Quand les professeurs travaillent avec différents élèves, et qu'ils les aident et qu'ils les voient se développer et atteindre leur objectif, le professeur est tellement content. Il voit les fruits de ses efforts et il voit des vies qui sont changées. On aura la même chose, la même joie de voir des vies être changées. On pourra guérir les gens physiquement, émotivement, les aider de toutes les façons imaginables. Et en même temps, vous aurez d'innombrables occasions d'apprendre, de créer, d'inventer des choses. Tout n'a pas encore été inventé. Il y a encore de la place pour beaucoup. Pour les membres de la famille divine, il y aura probablement aussi, Je suis bien d'accord avec ça. Des activités récréatives. Ici, on a vu des gens jouer à la pétanque durant la fête, jouer à différentes choses, hier à jouer aux cartes ou tout ça. Je ne pense pas que ce soit défendu d'avoir des activités récréatives dans la famille divine à ce moment-là. Ce sera peut-être des activités qu'on va découvrir, qu'on ne connaît pas encore, mais on pourra probablement avoir des activités récréatives, des jeux, peut-être des activités d'athlétisme. Et il n'y aura pas de courbature après avoir fait des jeux, j'imagine. Et ça ne nous empêchera pas de dormir non plus parce qu'on ne dormira pas. Parce qu'il y en a qui ont joué ici ou qui ont dansé hier soir un peu plus fort et qui ont dit qu'ils avaient mal aux jambes. Je n'emmenais pas personne. Mais voyez-vous, ça c'est parce qu'on est dans une condition physique. Mais à ce moment-là, ça ne sera pas de problème. Je ne sais pas si c'est sûr que ça va arriver comme ça, mais ça me permet de rêver. On pourra se déplacer comme le Christ sans aucun problème. Vous savez que le Christ, après sa résurrection, est monté au ciel, au trône de son Père, et il est revenu le même jour. Le même jour. Vous irez voir dans Jean, chapitre 20, versets 17 à 19. À l'extérieur du tombeau, après sa résurrection, il a parlé à Marie de Magdala, vous voyez le contexte. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Et regardez après, le soir de ce même jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Le même jour, il était allé dans l'autre dimension, la dimension spirituelle, et il était revenu pour être avec ses disciples le soir même. Imaginez d'être capable de voyager à la vitesse de la pensée. C'est fantastique. Ça nous dépasse ces choses-là, mais ça nous fait rêver d'être capable de voyager comme ça. Moi, je rêve d'un voyage en particulier. Je peux vous faire une confidence? On se connaît? Bon, OK. Alors, je vais vous faire une confidence. Il y a une place que j'aimerais aller. C'est sur ma petite liste de visite de l'univers. Il y a une planète qui a été découverte en 2012 par une équipe d'astronomes. Cette planète-là s'appelle 55 Cancri Tradunion E. 55 C-A-N-C-R-I Tradunion E. C'est une planète qui est formée en grande partie de diamants. On n'a pas tout vu, hein? Une planète qui est formée en grande partie de diamants. Vous savez, quand on en parlait au souper hier soir, les gens du Nouveau-Brunswick parlaient que dans le monde de demain, quand la Nouvelle-Jérusalem sera là, chaque porte de la ville sera une grande perle. Ça fait rêver, mais on a de la misère à comprendre comment ça va être. C'est une autre dimension, c'est un autre niveau. Mais il y a plein de choses dans l'univers qui sont déjà là, qu'on aura le plaisir de découvrir. Voyez-vous, cette planète-là, qui a été découverte, est formée en grande partie de diamants. Et juste pour vous donner une idée de la grosseur du diamant, c'est qu'elle a deux fois la taille de la Terre. Ça vous donne une idée. Il y a du diamant, là. Deux fois la taille de la Terre. Et selon l'équipe d'astronomes, le diamant pourrait représenter au moins un tiers de cette planète, soit l'équivalent de trois fois la masse terrestre, en pur diamant. Pensez pas qu'on sert un Dieu qui est grand? Beaucoup plus grand qu'on peut l'imaginer. Mais c'est bon de voir des choses comme ça, parce que, justement, ça nous aide à réaliser qu'il est beaucoup plus grand qu'on pourra jamais l'imaginer dans la chair humaine. Mais ça fait rêver, ça fait rêver. Tout au long de l'éternité, les membres de la famille divine vont constamment développer des projets. Ils vont accomplir des choses de plus en plus grandes et de plus en plus satisfaisantes. Vous savez, quand on a un projet, qu'on le met de l'avant puis qu'on réussit, il y a une joie, hein? Il y a un plaisir à ça. Que ce soit une recette ou construire un cabanon ou bâtir une maison, ou que ce soit. Quand on a un projet puis qu'on réussit, c'est tellement agréable, c'est tellement satisfaisant. Et on va travailler à l'infini, dans le fond, dans l'empire divin qui sera en constante expansion durant l'éternité. Avez-vous pensé? Même avec les lunettes puissantes qu'on peut avoir maintenant, les télescopes, on n'arrive pas à voir le bout de l'univers. On découvre toujours autre chose. Et on multiplie le nombre de milliards de galaxies. Et c'est écrit dans la Bible que l'empire du Christ, le règne de Dieu, est sans fin et qu'il va donner à son empire un accroissement sans fin. Ça aussi, ça dépasse l'imagination. Il y a quelque chose de spécial qui nous attend. C'est tellement motivant, c'est tellement encourageant de voir ça. Pour nous, tout ça, ce que je viens de vous décrire rapidement, tout ça n'aura jamais de fin. Ce sera un bonheur éternel. Là, on parle d'un bonheur éternel. On parle d'activité enthousiasmante. On parle de la présence de Dieu lui-même, du Christ lui-même, avec lequel on sera en rapport direct. Notre monde physique actuel, il est temporaire. On le sait. Il est vraiment temporaire. Nos vêtements s'usent, on le sait. Nos maisons se détériorent. On est obligé de faire des réparations, de repeindre, on est obligé de refaire la toiture, on est obligé de plein de choses au fur et à mesure. Nos corps physiques vieillissent et vont s'arrêter. La machine va s'arrêter. On va mourir. On est construit comme ça. C'est pas pour rien que Salomon a écrit, en parlant de la vie passagère que nous avons et des valeurs passagères de la vie physique, il a répété à plusieurs reprises, hein, dans Ecclésiaste, « Vanité des vanités, vanité des vanités, tout est vanité du vent. » Ce que nous pensons posséder, ça nous échappe, parce que notre vie est temporaire, limitée. Ça a été voulu comme ça, par un Dieu qui avait autre chose en tête. Lui qui a mis dans notre cerveau la capacité de rêver à ce qui vient et la capacité d'avoir avec nous l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses de Dieu, pour nous préparer à les réaliser, à réaliser ces grandes choses qu'il a en réserve pour nous. Autre bonne nouvelle dans ce sens-là, et c'est assez spécial à dire, nous pouvons vaincre la mort. Nous pouvons vaincre la mort, pas par nous-mêmes, par la puissance de Dieu. Par la puissance de Dieu. En tant qu'enfants engendrés de Dieu, nous avons, comme j'ai dit au début de mon message, nous avons quitté les voies du monde. Et nous continuons de le faire. Le combat n'est pas fini. Le combat n'est pas fini. On continue de le faire. Il faut continuer de le faire pour suivre Dieu dans ses voies. Si nous persévérons, et c'est la condition. La seule personne qui peut faire que moi, je n'arrive pas au royaume et que vous n'arriviez pas au royaume, c'est la personne qui est dans vos chaussures et qui est dans mes chaussures. C'est seulement nous qui peuvent faire en sorte qu'on manque notre coup. Mais le Christ a dit, « Je ne perdrai aucun de ceux que tu m'as donné, Père. » En disant ça, lui mentionnait que lui ne nous abandonnerait jamais. Mais moi, je peux abandonner. Si je diminue de me purifier, si je m'éloigne, si j'étudie de moins en moins, si la voix de Dieu a de moins en moins d'importance et que je faiblis, je peux manquer mon coup. Mais le Christ, lui, aura fait tout ce qu'il veut faire et qu'il peut faire pour m'amener à terme. Et le seul responsable, si je ne réussis pas, c'est moi-même ou vous-même dans ce cas-là. Si nous persévérons, nous allons recevoir la vraie vie, la vie durable, la vie éternelle, la seule vie qui compte dans le fond. Actuellement, on est simplement dans un carré de sable pour apprendre les choses, pour développer ce qu'il nous faut pour aller à un autre niveau d'existence et pour entrer dans une vie heureuse à tout jamais. Allez dans 1 Corinthiens chapitre 2, s'il vous plaît. 1 Corinthiens chapitre 2, et nous allons lire le verset 9 qui décrit exactement le thème de mon message aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 2 et le verset 9. Regardez comme c'est beau. Ce sont des choses dont je viens de vous parler et que la Bible nous parle abondamment concernant notre avenir, l'avenir des appelés, des enfants de Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Je vous ai parlé de choses d'un autre niveau d'existence que votre œil et mon œil n'ont pas vues, mais que spirituellement on peut entrevoir par la puissance de Dieu. Il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Et si nous les voyons, ces choses-là, c'est parce que Dieu actuellement nous donne de les voir. Je devrais dire nous donne de les entrevoir, parce qu'on ne les voit pas dans toute leur majesté ou toute leur amplitude. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Nous, on les découvre à la fête et on les découvre dans nos études bibliques, dans les prières envers Dieu. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont pas montées au cœur de l'homme par elles-mêmes ou automatiquement. Et regardez bien, des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. Et on sait que aimer Dieu, c'est s'appliquer à vivre selon ses voies, selon ses lois, avec son aide, parce que seul, on n'est pas capable. Alors, il dit, ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, pour vous et pour moi ici. Ce qui attend ceux qui choisissent de persévérer jusqu'à la fin, malgré les obstacles, malgré l'opposition, malgré les persécutions, ce qui nous attend, c'est une vie heureuse, une vie active, une vie productive, sans fin. Pour nous, le millénium, le premier millénaire du règne du Christ, ne sera que le tout début de toute l'éternité.